J'aimerais déjà vraiment commencer par remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour chacun d'entre vous, pour ce qu'il a fait déjà pour vous cette semaine, Dario Pinky. Et je sais qu'on est aussi au bénéfice aussi du Seigneur dans beaucoup dans la communauté, avec des victoires. On voit chaque dimanche, quelqu'un a une bonne nouvelle à annoncer, une victoire. Et on voit que le Seigneur n'oublie personne. Et tu l'as dit aussi, Dario. Et le Seigneur n'oublie personne. Et mardi soir, pour ceux qui étaient présents, on a reçu Dan Lee, donc le ministère de prophète.
Mardi soir. Wow. Yes. Ça, c'était vraiment un temps incroyable. Et je vous conseille de noter aussi les paroles que vous avez reçues, parce que certes, c'est un homme qui a donné la parole, mais il faut quand même la noter. On ne sait jamais. Si ça vient du Seigneur, dites-vous que ça va se réaliser.
Amen.
Amen. Mais je vous conseille aussi quelque chose. Ne vous focalisez pas sur cette parole aussi. Des fois, certaines choses mettent du temps à arriver. Des fois, il y a des conditions aussi pour pouvoir atteindre justement la vision qui a été donnée. Et ce pourquoi vous êtes sur terre. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur ça. Mais sur quoi il faut se focaliser alors? Qu'est-ce que c'est l'objectif de votre vie? Quand on est enfant, on rêve d'être astronaute, maîtresse, vétérinaire, pompier. Et puis, quand on grandit, on rêve de se marier, d'avoir des enfants, avoir une belle carrière, d'être connu, ou on rêve d'avoir une vie tout simplement tranquille, sans trop de responsabilités. Et puis on peut aussi se dire que si on arrive à peu près à avoir ce qu'on avait prévu, est-ce que ça veut dire qu'on a réussi notre vie? Et si rien ne s'est passé comme on l'avait imaginé? Est-ce que ça veut dire qu'on a raté notre vie? Si vous avez reçu tout ce que, humainement, il était possible d'avoir, et que vous vous sentez encore insatisfait, ça peut arriver. C'est peut-être parce que vous ne courez pas après le bon objectif dans votre vie. Et au contraire, si votre vie a été toujours une succession d'épreuves, d'échecs, d'humiliations, de mots difficiles. C'est peut-être aussi que vous vous êtes dit que vous étiez un perdant. Dieu vous offre la possibilité, dans votre vie aujourd'hui, d'être un vainqueur en lui. Et le titre de mon message, on est vraiment surligné. Je remercie aussi la parole prophétique qui a été donnée par Pasteur Esther. Le titre, c'est « Gardons nos yeux fixés sur Jésus ». Amen. Je vous laisse ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire ensemble 2 Timothée, les versets, chapitre 4, versets 6 à 8. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Waouh! Ça, c'est encourageant. Vous savez à quel moment Paul a écrit ces mots? C'était peut-être quelques jours avant qu'il soit tué. Et quand on dit quelque chose en général avant de mourir, souvent ce sont des paroles importantes. Des paroles qu'on ne veut pas oublier. Et ces paroles ont été destinées à Timothée. Timothée était un serviteur de Dieu, un jeune, qui cheminait aux côtés de Paul Et Paul avait prévu que ce soit Timothée qui prenne la relève à ce moment-là. Donc même avant de mourir, Paul, plutôt de paniquer sur son heure, était déjà en train de préparer la suite. C'est incroyable. Et ça, c'est quand même hyper intéressant, parce qu'on voit que, on peut imaginer dans ces moments où il a écrit ces mots, il devait quand même avoir peur, on ne va pas dire le contraire. Il était en prison, il savait que ses derniers jours approchaient. Oui, il avait le droit d'être dans la peur. Mais quand on lit le texte, quand on lit ces versets, c'est peut-être même pas la peur qu'on ressent en premier, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction que sa vie avait justement un sens, qu'il avait accompli quelque chose. Dans mon métier, vous savez, je travaille à l'hôpital, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en gériatrie, donc avec des personnes âgées qui ont plus de 75 ans. Et la plupart, s'ils sont à l'hôpital, c'est qu'on vient leur découvrir quelque chose. Et certains apprennent qu'ils n'ont que quelques années à vivre, quelques mois, quelques semaines. Et je peux vous assurer que la grande majorité des gens que je vois tous les jours à mon travail sont dans une grande tristesse. Une grande tristesse. Qu'ils soient riches, ou plutôt classe moyenne, ou plutôt modeste, qu'ils aient eu une famille ou pas une famille, je peux vous assurer qu'ils sont souvent pris par le remords, par le regret, par une amertume. Certains n'ont que des paroles dures qui sortent de leur bouche. Et on peut se demander, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi ils ont cette attitude-là ? Certains ont réussi des choses dans leur vie. Ils ont peut-être eu une belle carrière, ils ont une famille, ils ont eu tout ce que humainement il était intéressant d'avoir. Mais non, je peux vous assurer, je n'ai jamais vu une population aussi triste depuis que je travaillais à l'hôpital. Si on se rapproche de Paul et de ce qu'il a écrit, en fait, on voit ses premiers mots, c'est « je suis déjà comme sacrifié ». Et le moment de mon départ approche. En fait, sa vie, il l'a déjà vue comme un sacrifice, tout le long. Et jusqu'au jour où justement où sa fin approchait, il a même vu la fin de vie comme sacrifiée, comme si lui-même se donnait comme une offrande à Dieu. C'est incroyable ça, une offrande. Et parce que voilà, on voit aussi qu'à l'époque, on était dans une culture païenne, il y avait aussi la culture en Grèce de libérer, de verser du vin pour les dieux de l'époque, et c'est pas les dieux étrangers. Et en fait, en disant ça aussi, Paul il s'adresse aussi aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Lui-même est prêt à verser son sang pour justement sur l'autel pour le Seigneur, comme une offrande. Et lui, il a gardé qu'un seul but dans sa vie. Servir le Christ et aider les autres à vivre selon la volonté de Christ. Toute sa vie, il a fait ça. À partir du moment où il a été converti. Parce que pour ceux qui connaissent sa vie, il a été un persécuteur de chrétiens. C'était un juif. Il était très cultivé. Il connaissait la Torah. Il connaissait plein de choses. Mais alors, ça ne l'empêchait pas de persécuter, d'humilier et de tuer les chrétiens pendant des années, jusqu'au jour où Jésus s'est révélé à lui directement. Il lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu ? À ce moment-là, on sait, j'ai épargné les détails, mais ses yeux se sont ouverts, sa vie a changé, et elle est convertie du jour au lendemain. Et il a poursuivi son but, répandre l'amour de Jésus, partout où il allait. Il a pris des risques. Ça a été un des plus grands missionnaires. Il a répandu l'évangile en Asie mineure, en Europe. Il a pris des risques. Il a pris les bateaux. Alors, c'est pas comme les bateaux qu'on a aujourd'hui, hein. C'est des bateaux de fortune, hein, où il a failli chavirer à plusieurs reprises. Il a été lui-même persécuté. Il a été emprisonné. Il a été torturé. Et il a continué. Et il a continué parce qu'il savait. Il savait que Dieu lui avait mis quelque chose sur son cœur. Et il ne pouvait pas s'arrêter parce que ça brûlait. Ça Et nous, est-ce qu'on a déjà sacrifié quelque chose dans notre vie? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que, on voit Paul qui a fait ça, mais est-ce que nous-mêmes, on a déjà sacrifié quelque chose pour une cause peut-être plus petite, mais qui n'est pas des fois sans importance? Le fait de connaître, de se sacrifier pour quelque chose. On peut sacrifier son temps, on peut sacrifier ses finances, on peut sacrifier son confort aussi, pour une cause. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui ont des enfants. Le moment où le bébé arrive au monde, là on connaît le sacrifice, n'est-ce pas? On sacrifie nos nuits, on sacrifie notre confort, on sacrifie des activités, des loisirs, le fait de sortir, des amis, etc. On sacrifie notre temps, mais c'est par amour pour notre enfant. C'est pas un problème. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui est important. Un sacrifice, ça coûte. Il y a toujours un prix à payer si on veut quelque chose. Et si on veut vraiment quelque chose, notre vie doit être tournée vers ce but-là. Quand on parle du zèle pour le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le zèle? C'est de tout faire pour arriver justement à ce but-là. C'est pas je suis là, j'attends que ça arrive. Non, Seigneur, il faut qu'on soit là. Je veux ça, Seigneur. Je veux tes dons. Je veux bénir. Je veux voir des âmes sauvées pour le Christ. C'est ça qu'il faut. Et on peut avoir des fois des motivations qui sont des fois nobles, qui sont pas forcément éternelles. Je vais vous laisser aussi ouvrir la parole de Dieu et lire dans 1 Corinthiens 9, 25. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Dans le monde, on peut courir pour différents buts. Comme je l'ai dit en introduction, on peut courir après une famille, une carrière, une reconnaissance, voyager aux quatre coins du monde. Mais pour Dieu, la réussite, elle n'est pas là. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est de garder la foi jusqu'à notre dernier souffle. C'est ça notre objectif. Si vous vous sentez déprimé, insatisfait dans votre vie, peut-être que vous ne courez pas après le bon but. Et ça, c'est important de bien méditer ce matin. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre après des buts périssables. Mais on est fait pour courir après un seul but qui est éternel. Gardez la foi. L'objectif n'est pas de vous culpabiliser ce matin, mais de considérer qu'il y a une nouvelle perspective qui est possible. Si on se donne totalement à Christ, c'est là qu'on trouve notre identité. C'est là qu'on trouve notre satisfaction, le sens de notre vie sur terre. Combien de jeunes sont en quête de sens? On est face à une génération, les 20, 30 ans, ils sont dans une quête de sens incroyable. D'ailleurs, il y en a énormément qui sont en train de sombrer en dépression aussi, parce que justement, ils n'ont pas encore compris ce sens de pourquoi ils sont sur cette terre. On a tellement de gens à aider, tellement de gens. Et si vous voulez savoir qui vous êtes, aussi, ce que vous êtes censé faire pour Christ, parce que quand on est des fois au début de la marche, on se dit, Seigneur, oui, je veux te servir, mais je ne sais pas quoi faire. Si vous n'avez pas toujours de la joie aussi, comment je peux avoir de la joie? Je vais vous donner un conseil ce matin. Donnez tout à Christ. Donnez tout. Si vous voulez rentrer dans les temps, dans les plans parfaits que Dieu a mis sur votre vie, il faudra passer par la croix. On n'a pas le choix. Une mort à nous-mêmes pour se donner tout entier à lui et à son œuvre. lorsque nous allons vraiment voir la puissance de Dieu se manifester. Les miracles en abondance. Et ce réveil ne se fera qu'avec ceux qui se donneront complètement à lui. Dieu ne travaille pas avec ceux qui vont donner qu'une partie. Non, il faut tout lui donner. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Il faut vraiment le comprendre. Quand on dit aussi garder la foi, selon Dieu, c'est aussi combattre le bon combat. Quand on voit le passage, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Le combat, en fait, j'ai regardé, ça vient du mot agon en grec et qui a donné le mot agonie. Bon, agonie, hein, ça devait être plaisir. Hein. Agonie, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de souffrance, hein, là-dedans. Et en fait, j'ai regardé, c'était un mot qui était utilisé dans le contexte sportif, qui, en fait, voulait signifier le sportif qui se dirige vers l'effort énorme pour atteindre la victoire. C'est ça l'origine du mot agonie. Et Paul compare, voilà, garder la foi avec le fait de combattre le bon combat. Lorsqu'on vient de se convertir, souvent on est tout feu tout flamme. On se dit, waouh, en fait on voit un monde comme un monde qu'on n'avait jamais vu et d'un seul coup tout devient clair, on a les yeux qui sont ouverts et on se dit, mais c'est pas possible, Jésus est vraiment la solution à tous les problèmes. Et on y va, on a envie de crier, Jésus est la seule solution. Enfin, en tout cas, j'étais comme ça. Et bon, je me suis pris quelques claques, parce que du coup, c'était pas très sage de faire comme ça. Ça, je l'ai compris. Mais en tout cas, on est tout feu, tout flamme. Et en fait, c'est bon. C'est bon d'être comme ça. Mais on a un ennemi qui est là. Si on a Dieu, on a aussi le Satan qui est là. Et il est actif. Je peux vous l'assurer qu'il est actif. Il existe vraiment. Et lui, il n'a pas envie qu'on réussisse. Il n'a pas envie qu'on garde le... qu'on continue notre course, il n'a pas envie qu'on gagne le combat. Et il va tout faire pour qu'on se perde en chemin. Et une des armes qu'il utilise, parmi plein d'autres, hein, je l'ai noté, c'est de nous épuiser à combattre les mauvais combats. Alors les mauvais combats, je vous ai cité quelques exemples. Par exemple, c'est quand on se lance dans un combat que Dieu n'a pas voulu. Et par conséquent, on sera sans Dieu pour combattre. C'est très important de le comprendre. Parce que des fois, effectivement, voilà, au début, on a envie d'y aller partout, on a envie de crier, on a envie de faire plein de choses. Mais attention, il vaut mieux faire ce que Dieu veut. Et j'ai un exemple précis dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 1, 41 à 46. Je ne vais pas forcément vous le lire là ce matin, parce que c'est un long passage. Mais en fait, c'est un passage après la libération du peuple israélite du pays d'Égypte. En fait, le peuple, en fait, elle s'est retrouvée dans le désert à combattre contre des ennemis pour justement atteindre la terre promise. Et il y a un passage qui est intéressant, c'est en fait le peuple qui s'est senti pousser des ailes. En fait, il voyait vraiment Dieu qui était là pour combattre les ennemis, etc. Et en fait, eux-mêmes ont pris l'initiative de se battre contre des ennemis pour prendre une région montagneuse, alors que Dieu leur avait rien demandé. Et Dieu leur a dit, à travers un prophète, de ne pas y aller. Il leur a dit, non, n'y allez pas. Si vous y allez, vous allez échouer, vous allez être battus. N'y allez pas. Ils n'ont pas écouté. Ils y sont allés. Et la défaite a été terrible pour eux. Ils ont été battus, humiliés, poursuivis, et ils ont dû revenir vers Dieu en pleurant. Alors Dieu, il a été hyper gentil, parce que Dieu est miséricordieux, on l'a encore chanté ce matin. Dieu leur a dit, vous allez rester tranquille pendant un temps là. Donc en fait, ils sont restés ensuite plusieurs années dans la ville de Kadesh Barnéa. En fait, c'était une des plus somptueuses oasis qui soit. Comme quoi, même si on peut faire des bêtises, même si on peut se dévier un petit peu du chemin, Dieu est toujours là pour nous donner quand même un petit réconfort. Ça, c'est beau. Mais un mauvais combat, si on reste sur les combats, il peut se trouver aussi lorsqu'on fait trop de choses, sans faire spécifiquement ce qu'on est censé faire. Et ça, c'est très subtil. Parce qu'il y a toujours une bonne raison. Si on veut servir Seigneur, il faut toujours trouver quelque chose à faire. Si on veut bénir les gens, il y a plein de manières aussi de bénir les gens. Et des fois, on veut tout faire. On voit les besoins, on se dit non, non. Mais alors là, Satan, il aime bien ce genre de choses. Parce qu'en fait, tant qu'on est complètement dispersé partout, on ne fait pas spécifiquement ce à quoi on est censé faire. Et du coup, il y a moins de puissance dans ce qu'on fait et moins d'impact. Seigneur, il veut qu'on ait de l'impact dans nos vies. Il veut qu'il y ait de la puissance. Et c'est là aussi qu'il y a une importance à être une équipe. Une équipe avec des membres qui ont chacun leur rôle à jouer pour justement décharger aussi les fardeaux qui reposent sur les uns et les autres, répartir, soulager et pour libérer aussi du coup les capacités. Ça, c'est important. Andy et moi, on ne peut pas faire tout tout seul. C'est impossible. Et le Seigneur va lever des responsables qui pourront justement nous aider à nous soulager. Parce que il faut de l'impact. Amen. Donc le but de Dieu n'est pas de nous épuiser, qu'on subisse notre vie. Il veut qu'on soit joyeux.
Amen.
Il veut qu'on soit satisfait, qu'on soit dans la paix. Il est possible, dans ce monde complètement fou, d'être satisfait, d'être joyeux et d'être dans la paix. Mais faites confiance au Seigneur. Si vous combattez les combats que Dieu vous demande de combattre, il sera avec vous et il y aura des victoires glorieuses.
Amen.
Et ça, je peux vous assurer, ça booste votre foi.
Amen.
En déclarant que le Seigneur, il a fait quelque chose pour vous, dans votre vie. Ça fait partie de votre histoire. Amen.
Amen.
Et aussi par rapport au combat, il y a aussi un piège aussi que beaucoup pensent, c'est qu'on pense que quand on est chrétien, bah, on est un peu épargné. On vit dans un monde un peu de bisounours. Tout le monde est gentil. Tout le monde est beau. Tout le monde... dans cette église, oui, je suis d'accord. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mais, et on pense qu'on va être épargné des épreuves parce qu'on a Dieu qui est à nos côtés. Mais j'ai pas de bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que les épreuves, vous en aurez. Moi aussi, j'en aurai encore. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à les vivre. Et pour ça, il faut fournir des efforts. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'on puisse payer le prix. Et là, on verra la victoire sur tout. Amen.
Amen.
Quand on voit le passage aussi, il parle de terminer la course. J'aime beaucoup ce mot, ça. C'est vrai, terminer la course. La course, c'est quoi ? Je vais avoir vraiment un vocabulaire de sportif que je ne suis pas, excusez-moi. Mais déjà, pour démarrer une course, on imagine, vous avez tous les coureurs là, qui sont les uns à côté des autres, et puis, il y a un point de départ. Et puis, tout le monde se met à courir. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait déjà à la base ? Y aller. Se lancer. Amen.
Amen.
Il ne faut pas rester comme ça. Si tout le monde court et qu'à côté on reste sur place, là du coup on va avoir du mal à terminer la course. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas hésiter, même si on met un petit orteil dans ce que Dieu a envie de faire, c'est toujours un orteil. Et vous verrez, demandez ce que vous avez besoin maintenant. Dieu va vous montrer qu'il est là. Et petit à petit, les choses vont se dessiner. Et vous allez demander, vous allez recevoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, on se dit, je vais quand même pas demander ça. C'est quand même bizarre. Bah non, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. C'est ce qu'a fait mon mari. Je me permets de te dire au départ, dès que tu es arrivé à l'église, ça faisait quoi, 2 semaines qu'on y allait, quand c'était à genoux, il a prié en se disant, si Dieu t'existe, tu as prié pour ta cousine, Seigneur, je veux que ma cousine elle réalise son rêve aujourd'hui. Et en fait, c'était quelqu'un qui était dans l'haltérophilie à un très très haut niveau, et là ce jour-là elle passait le championnat de France d'haltérophilie. À la fin du culte, elle envoie un message à Andy, elle lui dit, Andy, prière qu'il avait faite. Ça a boosté ta foi. Ça a boosté au départ. N'hésitez pas à demander. Des places de parking.
Ça marche.
N'hésitez pas, n'ayez pas de prière bête. Une autre vision de la course, c'est que, alors moi qui ne suis pas une grande sportive, c'est vrai que courir pour moi c'est pas facile. Parce que je suis concentrée sur mon effort et du coup je m'arrête assez rapidement. Donc un conseil, quand on court, si on veut courir pour le Seigneur, on ne reste pas fixé sur l'effort qu'on fournit, sur les muscles qui brûlent. D'accord ? Il faut être fixé sur l'objectif. L'objectif, et là on voit l'objectif, c'est la couronne de justice. À l'époque des Grecs, lorsqu'il y avait ces épreuves de course, ils recevaient, le vainqueur recevait la couronne de laurier. D'ailleurs, on voit toujours hein, en image et tout ça. Et en fait, c'était une couronne de laurier pour le vainqueur, pour celui qui arrivait en premier. Mais là, il y a une petite subtilité, c'est que là, en fait, on voit, il ne dit pas « j'ai gagné la course », il dit « j'ai terminé la course ». Ça veut dire qu'on ne court pas en compétition avec les uns et les autres. On court en compétition avec nous-mêmes. L'objectif, c'est de la terminer, cette course. Amen. C'est un combat. Vous savez, David l'a prêché la semaine dernière sur le fait qu'on avait comme un colocataire qui était là. Quand là qu'on reçoit le Saint-Esprit vient en nous, mais on a notre ancien nous qui reste toujours là. Et notre ancien nous, bah, il va préférer le confort, les petites choses matérielles, se battre pour des choses inutiles, etc. Et voilà, donc c'est vraiment un combat avec nous-mêmes pour y arriver. Et la récompense avec le Seigneur, c'est le fait de rencontrer notre Seigneur. En fait, même avant même de vouloir cette couronne, il faut vouloir le rencontrer. Quelqu'un avec qui vous parlez. Parce que c'est un Dieu qui communique. C'est pas un Dieu qui reste là-haut, comme quelque chose d'inatteignable. Non, on a un Dieu qui nous parle, qui nous bénit, qui nous rassure, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous donne une direction. Et ce Dieu qu'on n'a jamais vu, oh, j'ai qu'une envie, c'est de le voir, non ? Et vous aussi ? Ça peut devenir réalité. Dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. En fait, on voit bien. Excusez-moi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Des fois, on veut se dire aussi, pour garder la foi, il faut que je fasse des choses. Il faut que je sois bien. Si je fais ça, le Seigneur va plus m'aimer, va plus m'apprécier. J'entends énormément de gens qui me disent « je suis une bonne personne, je fais le bien, donc c'est bon, je vais pouvoir aller au ciel ». C'est pas ça. Qu'est-ce qui nous apporte justement la porte, qui est la porte justement vers le ciel ? C'est Jésus-Christ. C'est la seule porte possible et c'est par grâce. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il s'est donné lui-même à la croix. Il est mort, puis ressuscité pour nous pardonner toutes nos fautes, pour justement nous libérer de tous nos fardeaux, de nos addictions, nous guérir et nous ouvrir la porte vers le ciel, vers la vie éternelle. En fait, le fait de croire nous fait ensuite faire les œuvres pour lui, justement pour lui rendre en fait tout ce qu'il a déjà accompli pour nous. Donc si nous sommes sauvés, ce n'est que par grâce. Par lui seul. Amen. Aussi par rapport à la course. C'est important aussi quand on voit comment ça se passe. Chacun a un couloir. Amen. Aussi quand on court. Et on est tous côte à côte. Chacun dans son couloir. Si vous commencez à courir sur le couloir de l'autre, à un moment donné, il va y avoir un problème. Et c'est pareil pour nous dans le royaume. On a tous un rôle à jouer. Tous. Certains vont penser que la réussite selon Dieu, c'est d'être pasteur. C'est pas ça. La réussite selon Dieu, c'est faire ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est pas autre chose. Et en fait, en plus de ça, le fait d'être pasteur, c'est un appel. Moi, au départ, comme je vous l'ai déjà dit, quand le Seigneur me l'a dit, j'ai pas crié de joie. Hein. Parce que j'avais une petite idée de ce que ça consistait, donc j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais ça était là, ça brûlait en moi. J'ai pas pu lutter. D'ailleurs, un conseil, ne pas se lancer si on n'est pas appelé. Comme tout à l'heure dans les combats. Ne pas se lancer dans des combats qui ne nous appartiennent pas. Sinon, on va être laminé. Et c'est aussi pour aussi reconnaître que si nous connaissons notre rôle à jouer, si nous connaissons notre couloir que Dieu a préparé d'avance pour nous, en fait, on n'aura pas de comparaison. On n'aura pas de jalousie avec ceux qui arrivent à faire certaines choses. Ça, c'est important aussi. Peut-être que ton rôle au sein du royaume de Dieu, c'est sur le plan financier. Peut-être que c'est d'aider des orphelins. Peut-être que c'est de soutenir des femmes battues. Peut-être que c'est de construire des bâtiments pour un homme. Peut-être que c'est de soutenir son mari dans son ministère. Peut-être que c'est celui de prier. Peut-être que c'est celui d'avertir. Peut-être que c'est celui d'accueillir. Notre identité se trouvera en Christ. Et si vous ne l'avez pas trouvé aujourd'hui, continuez de marcher. Continuez de lui faire confiance. Démarrez la course. Et votre identité se révèle au fur et à mesure de la course. Ça, c'est une réalité. Et Dieu ne montre pas toute votre vie, comment ça va se dérouler. Dieu vous montre pas à pas. Faites un pas et ensuite il vous dit quoi faire pour le pas suivant. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand on court aussi, il faut persévérer. Donc si on vit des combats, si on vit des moments de désert, il faut persévérer. Il faut de la patience. Ça, c'est très important aussi. On ne peut pas avoir une victoire comme ça jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose, dans notre génération aussi, on a du mal avec la patience. Des fois, on voudrait avoir tout de suite comme on voudrait. Et des fois, des pas à franchir avant. Et puis aussi, ce qui est très important aussi, c'est quand on commence la course, finalement, le plus important, c'est pas comment on la commence, c'est comment on la finit. On peut très bien démarrer à un moment donné, dans la course pour le Seigneur. Et puis un jour, on peut être blessé. Un jour, on peut avoir eu des épreuves, des choses qui ne se sont pas passées comme on le désirait. À tout moment, on peut rejoindre la course. Ça, c'est important. Et ne pas rester sur des blessures. Ne pas rester sur une culpabilité où je ne suis pas Dieu, où je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. À tout moment, Dieu te permet de reprendre la course. Amen. Il y a un autre mot aussi qui m'est venu en parlant de la course, c'est le mot discipline. Un athlète, bon, d'ailleurs, n'est pas là ce matin, mais j'aurais bien voulu qu'il soit là, il peut nous le dire. C'est un jeune qui est pour l'espoir au niveau du foot. Et en fait, quand on est un sportif de haut niveau, on doit être coaché. On est coaché au niveau de l'alimentation, on est coaché au niveau des entraînements, tout le temps, ça s'enchaîne, etc. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ils sont aussi enseignés à avoir une bonne maîtrise d'eux, de ne pas tomber dans les pulsions, etc. Et de faire n'importe quoi. Et tout ça, c'est pour gagner en niveau, pour être le meilleur. Bah, pour le chrétien, c'est important aussi de comprendre aussi que nous aussi, nous devons entrer dans une discipline. On doit aussi faire attention à garder une bonne hygiène de vie. On doit faire du sport, on doit avoir une bonne alimentation, avoir un sommeil réparateur, des temps de repos aussi. On ne peut pas être dans l'action tout le temps. Ouais. Il faut aussi des moments aussi où on peut se reposer. Et on a aussi la discipline en tant que chrétien, c'est quoi? C'est d'avoir des temps où on va lire la parole, où on doit méditer la parole et ne pas la lire comme un livre, comme un roman. Non, c'est la méditer. Se dire, mais là, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Cherchez le cœur de Dieu quand vous lisez la parole. Avoir des temps de prière où vous cherchez la face de Dieu, où vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire. Et même si vous ne l'entendez pas, vous voulez être inondé par sa présence. Rien que le simple fait de sentir sa présence. Waouh, vous sentez qu'il est là. On sent. Et ça peut aussi passer par le jeûne, aussi la discipline. Parfois, même Jésus le disait, certains combats ne peuvent être gagnés que par la prière et le jeûne. On va bientôt rentrer dans la saison de Pâques avec un jeûne où on va tout jeûner une semaine. C'est des temps pénibles. Le jeûne débloque vraiment des choses incroyables dans votre vie, pour la communauté, pour la ville tout entière. Pas sous-estimer ça. Et il y a vraiment un verset aussi que j'ai reçu quand je préparais ce message, c'est Apocalypse 3, 11, par rapport à la couronne. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme ce que tu as. Si tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, tiens ferme la foi que tu as reçue. Et jusqu'au bout. Amen.
Amen.
Et comment on peut rester ferme? Parce que c'est beau de dire tout ça, mais il y a une clé. C'est l'amour. On voit à la fin du passage, c'est marqué, le Seigneur, le juste, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. On a déjà prêché pas mal de fois sur ça aussi ces derniers temps, et comme, d'ailleurs quand plusieurs prédicateurs prêchent la même chose, plusieurs dimanches, c'est que le Seigneur va vraiment nous dire quelque chose, il faut toujours être conscient de ça. Et là, la venue de Jésus, c'est aussi bientôt cette célébration de l'union entre l'épouse qui est l'Église et Christ qui est l'époux. Jésus bientôt va venir pour justement cette rencontre. Rappelez-vous, pour ceux qui se sont déjà mariés, normalement la veille du mariage, chacun est de son côté. Ça peut être même des fois la semaine avant, mais rien que la veille. Repensez à ce dernier jour-là. Avant, on est dans une excitation, non? On attend qu'une chose, c'est que on a envie de voir sa belle épouse, n'est-ce pas? Dans sa belle robe, la femme a mis tout son cœur pour la préparation. Elle est allée chez le coiffeur, elle est allée se faire les ongles, elle a acheté une robe à un prix assez élevé, on va dire. C'est censé être le jour le plus beau pour une femme. En tout cas, il n'y a pas un autre jour, on n'a pas envie d'être belle, on a envie d'être la plus belle ce jour-là. Et le mari, comment il est ce jour-là? Il n'a qu'une envie, c'est de voir son épouse.
Ouais.
Et là, qu'elle dit amen. Et la femme, elle n'a qu'une envie, c'est de voir son mari. Celle avec qui elle va passer le reste de sa vie. C'est un engagement, et c'est un engagement dans l'amour. Rappelez-vous un peu cette sensation d'excitation et de joie. Dieu, il veut qu'on soit exactement dans ça, dans cet état-là.
J'ai pas fait des mariages comme ça.
Il veut qu'on soit comme ça, et pas moins que ça. Cette excitation de le rendre. Si on veut garder la foi jusqu'au bout, il faut qu'on garde cette hâte de le rencontrer, cette joie de retrouver notre Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé comment ça allait être le jour où vous allez le voir en face? Moi, des fois, je m'imagine. Et moi, je m'imagine où il est comme ça. Où je lui cours dans les bras. Et lui, il court vers moi. Et on s'enlace comme ça. Et il me fait un bisou sur le front. J'imagine ce moment-là. Et je vis pour ce moment-là. mon but, c'est pas mon travail. Je veux prendre soin de ma famille, parce que c'est aussi le rôle que Dieu m'a donné. Il m'a donné ce rôle aussi de prendre soin de la communauté, aux côtés de mon mari. Mais tout ça, je le fais parce que je veux voir lui. Et je veux qu'il soit fier de moi.
Amen.
Dans Galates 5, 6, c'est écrit, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. L'amour doit toujours être au centre de notre foi. L'amour pour lui et l'amour pour les autres. Parce que nous sommes censés aussi bénir les autres. Si on suit aussi notre chemin avec lui, forcément nous allons ressentir de l'amour encore plus pour nos frères et sœurs. Encore plus pour les gens qui sont aussi à l'extérieur de l'église. Et ça nous pousse à les bénir. Ça nous pousse à les servir. On est appelés à se servir les uns et les autres. Et puis Jésus nous appelle aussi ses amis, pas ses serviteurs. Nous sommes ses amis. L'amour, ça. Parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris du Père. Parfois, on a du mal à se lancer dans la course. Parfois, on peut se sentir pas prêt, pas à la hauteur, indigne. Et je voudrais vous dire que ceux qui se voient comme ça, en tout cas, Dieu ne vous voit pas du tout comme ça. Il vous voit pas avec vos yeux, il vous voit avec ses yeux à lui. Et il vous voit saint, juste. Nous ne sommes pas aimés parce qu'on fait, nous sommes aimés parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça, il faut vraiment le comprendre. Nous sommes enfants de Dieu. On ne sera jamais parfait pour servir le Seigneur. Jamais. C'est lui qui va nous rendre parfaits en Christ au fur et à mesure de notre course. Il faut d'abord se lancer. Si on veut faire grandir notre foi, des fois, Dieu nous permettra. Il nous fera vivre certaines épreuves. Dieu permet certaines épreuves dans notre vie. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut bien aussi garder en tête. C'est qu'on a une grâce incroyable. Jésus intercède pour nous. Et il intercède pour qu'on puisse garder la foi avant toute chose. Il nous permettra d'obtenir la victoire. Il nous permettra d'être forts. Mais surtout, il faut garder cette assurance qui sera toujours là. Toujours. Jusqu'à la fin de notre course. Parce qu'il nous aime. Quand on a des enfants, on a les enfants jusqu'à la fin de notre vie, non ? On a envie de leur bonheur. Et en tant que maman, papa... je serai toujours là si tu as besoin. Si nous sommes capables de réagir comme ça, Dieu, il est encore plus fort. Et nos enfants, il les aime aussi. Amen. S'assurer que nous sommes aimés de Dieu. Dans Romains 8, 38 à 39, il y a un passage que j'aime énormément qui parle de l'amour de Dieu et à quel point il nous aime. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
Il nous aimera toujours. Amen. Et il nous abandonnera jamais.
Amen.
Si on s'éloigne de lui, c'est nous qui prenons les distances, c'est nous qui reculons. Lui est toujours là. Toujours là, et il nous aimera toujours. Alors en conclusion, j'aimerais vous poser la question de l'introduction. Quel est le but de votre vie ? Quel est le sens de votre vie ? Pourquoi vous vous levez le matin ? C'est plus que travailler. C'est plus que de faire des enfants. C'est plus qu'avoir une vie tranquille. C'est l'aimer. On vit pour l'aimer, pour le servir, pour faire sa volonté. on arrive à garder cet amour pour lui, nous garderons la foi. Amen. Si nous sommes sauvés, c'est aussi pour être une famille, on est d'accord. Ici, on le ressent, on est une famille. Mais c'est aussi pour qu'on soit participant au plan de Dieu. Et on trouvera notre satisfaction dans la vie que si nous le trouvons, lui. Si on découvre qui on est en Christ. Et si on met en action ce qu'on est censé faire.